travaillait le samedi? Oui. Et bonne chance pour votre enquête. Merci. Chapitre 16. Commencer par Brooklyn semblait logique. Et c'est ce qu'ils firent, écumant le voisinage de l'appartement de Danny Lange sur un rayon de trois blocs. Ils restèrent ensemble, arpentant les rues et entrant dans les instituts de beauté, les boutiques, les centres de manucure, de pédicurie, les salons de coiffure et même les salons de massage, dans l'espoir d'y trouver une petite pièce au fond où l'on prodiguerait des soins des ongles. Lorsqu'ils eurent épuisé toutes les possibilités, ils roulèrent vers le nord-est, en direction de Williamsburg, et recommencèrent. Trois blocs autour de la maison d'Hélène Jarvis, frappant aux portes pour se les voir brusquement fermer au nez, posant des questions, produisant leurs plaques, montrant la photo. Vous dites qu'elle s'appelait comment? Rebecca quoi? Pour finir par retourner la voiture sans être plus avancé qu'au début. Personne n'avait reconnu Rebecca. Il semblait que personne ne voulait la reconnaître. De l'avis de Radic, ils avaient tout tenté. Le principal du lycée, très vite au commissariat du 91e district, Hélène Jarvis. Ils avaient même soumis une requête pour obtenir la liste de tous les appels reçus par le lycée de Rebecca au moment en question. Combien de coups de fil il y aurait? Radic n'en avait aucune idée. Ni même s'il parviendrait à isoler celui qui avait été passé par le père fictif de Rebecca. Tout cela ne servait à rien, il le savait, mais il était bien obligé de chercher dans cette direction. Ses amis, déclara Parrish. Je vais retourner au lycée et parler à ses amis. Et je vais y aller seul. Radic lui demanda pourquoi. Si j'y vais seul, ils seront moins intimidés, ça semblera moins officiel, ce sont des gamins. Radic répondit qu'il le déposerait au lycée. Et ils convinrent que si quoi que ce soit survenait au cours d'une conversation avec l'un des élèves, alors Parrish demanderait à Radic de le rejoindre pour faire office de témoin. Si Parrish prenait une déposition seule, elle ne vaudrait rien. Parrish téléphona à David Carlyle, le principal, qui, bien que méfiant, accepta sa requête. Il expliqua cependant que la conseillère d'éducation devrait assister à tous les entretiens. Les équipiers se rendirent au lycée après le déjeuner. Parrish appellerait Radic pour qu'il vienne le chercher une fois qu'il aurait terminé, s'il n'avait pas besoin de lui avant ça. Carlyle, fidèle à sa promesse, avait réservé un bureau pour Parrish et la conseillère. Ruth Doyle, annonça-t-elle, en lui serrant la main avec fermeté et professionnalisme. Je suis ici sur un pied d'égalité, disait cette poignée de main. Vous ne m'intimidez pas. Elle portait un tailleur, le genre de tenue ni trop décontractée ni trop élégante qui indiquait qu'elle était ici pour faire son boulot, mais qu'elle pouvait aussi être proche des élèves. Parrish avait croisé des centaines de milliers de personnes similaires, dans les bureaux des services sociaux, des services pour l'enfance, de la sécurité sociale, et toutes disaient et pensaient la même chose. C'était les serviteurs de la machine bureaucratique, et ils avaient beau faire tout ce qu'ils pouvaient, ils étaient fermement entravés par un système qui leur interdisait toute initiative personnelle. Nous en avons deux bonnes douzaines, dit-elle à Parrish. Ce sont des élèves qui connaissaient Rebecca de nom, qui assistaient au même cours qu'elle, certains des amis qu'elle fréquentait. Nous comprenons que vous ayez besoin de faire cela, mais à vrai dire, ils ont tous été un peu secoués par ce qui s'est passé. Le principal a prononcé quelques mots devant tout le lycée hier, et nous avons fait venir un prêtre de Saint-Barnaby pour parler à ceux qui avaient besoin, enfin, à ceux qui ont le plus accusé le coup. Merci beaucoup pour votre aide, dit Parrish, et il esquissa un sourire aussi sincère que possible. Il avait la gueule de bois. Il avait mâché deux comprimés d'aspirine en chemin, et il avait encore leur arrière-goût amer au fond de la bouche. Il aurait bien aimé un café, mais il savait que ce serait la croix et la bannière pour en obtenir un. La première élève fut une fille frêle et timide affublée de lunettes aux verres épais. Elle passa 5 minutes à tenter de ne pas paraître effrayée, puis sembla extraordinairement soulagée lorsqu'elle quitta la pièce. Arriva ensuite un adolescent aux cheveux châtains, qui expliqua qu'il était sorti avec Rebecca. Enfin, plus ou moins sorti, ajouta-t-il avec un sourire embarrassé. Il portait un appareil aux deux mâchoires et tenait la main devant sa bouche pour le cacher quand il parlait. On était vraiment juste amis. Mais c'était il y a genre 6 mois, 1 an, et ça n'a rien donné, vous savez. On traînait juste, on écoutait le même genre de musique, c'est tout. La troisième fut une fille dont la taille et la charpente n'étaient pas sans rappeler celle de Rebecca. Mais ses cheveux étaient plus sombres, plus longs, attachants que de cheval. Elle pleura du début à la fin, serrant dans sa main un Kleenex roulé en boule. Elle semblait avoir un mal de chien à parler à cause d'un piercing à la langue. Au bout d'une heure, Paris commençait à piquer du nez. 10 de passé, 13 ou 14 à venir. Mais un jeune homme nommé Greg Kaufman le tira de sa torpeur. Comme cette autre fille que ma sœur connaissait. Excusez-moi, demanda Paris. L'autre fille, celle qui est morte l'année dernière. Sa mère fait penser. Rebecca, je ne la connaissais pas si bien que ça, vraiment. On avait deux cours en commun et elle avait l'air vraiment gentille. Mais quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pensé à la fille qui est morte à Noël dernier. Vous savez, je crois qu'elle a également été étranglée. Quelle fille? Je ne me souviens pas de son nom. Clara, Carla, Clary, quelque chose comme ça. Ma sœur pourrait vous le dire. Elles étaient très copines. Et ta sœur est aussi élève ici? Non, elle va à Waterbury, près de la station du métro Grand Street. Et elle s'appelle comment? Anna. Anna Kaufman? Paris nota son nom. Une autre fille, Brenda Grant, éveilla son intérêt lorsqu'elle expliqua que Rebecca et elle avaient parlé de Danny, le frère de Rebecca. Becca m'a dit qu'il avait des problèmes. Elle leva nerveusement les yeux vers Paris. Vous savez, je suppose que vous savez qu'il se droguait, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'un ton hésitant comme si c'était sa faute à elle. Oui, Brenda, je connaissais plutôt bien Danny. Eh bien, je ne sais pas si ses problèmes avaient quoi que ce soit à voir avec la drogue. Mais Becca m'a dit qu'elle était très inquiète pour lui, qu'il avait peut-être des soucis. A-t-elle précisé quels soucis, ou qu'il pouvait lui causer des problèmes? Non, monsieur. Elle n'a rien dit de spécifique, simplement qu'elle pensait qu'il avait de gros problèmes, et qu'elle s'en faisait pour lui. Savais-tu que parfois Rebecca fuguait pour passer du temps avec Danny? Brenda jeta un coup d'œil en direction de Ruth Doyle. C'est bon, Brenda, dit celle-ci. L'inspecteur Paris est ici pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Becca. Il ne t'en voudra pas, et tu n'as absolument rien à craindre. Oui. Elle m'a dit qu'elle allait parfois à la balle le week-end. Pas tous les week-ends. Et est-ce qu'elle t'a dit ce qu'ils faisaient ensemble? Brenda fronça les sourcils. Par exemple, est-ce qu'ils se baladaient? Ou peut-être qu'ils allaient au cinéma ou au concert? Ce genre de choses?
Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Elle me disait juste qu'elle était allée voir son frère pendant le week-end, et je lui demandais comment c'était, et elle répondait que c'était bien, ou qu'il allait mieux, et parfois, elle disait qu'il allait moins bien.
Et sais-tu s'il est arrivé à Rebecca de prendre de la drogue?
Certainement pas, jamais de la vie. Elle n'était pas du tout comme ça. Elle était très sérieuse avec ce genre de choses.
Ok, Brenda. Merci beaucoup.
C'est tout?
Demanda Brenda, et elle commença à se lever de sa chaise. Une dernière petite chose, dit Parrish. Est-ce qu'il lui arrivait de porter du vernis à ongles?
Hein?
Du vernis, pour se colorer les ongles, tu sais?
Non, je ne crois pas. Elle ne se maquillait pas beaucoup, ni rien. Elle avait une très belle peau.
Brenda hésita. Elle parut un moment confuse.
Elle avait une très belle peau, répéta-t-elle.
Et il semblait alors à Paris qu'elle était sur le point de pleurer.
C'était comme si elle avait tout gardé en elle, et que finalement, à cet instant précis, après avoir dû déterrer tant de souvenirs, elle comprenait soudain que son amie était morte. Comme si elle comprenait que Rebecca ne reviendrait jamais parce que quelqu'un l'avait étranglée.
Chapitre 17. Paris quitta le lycée Saint-François d'Assise à 15h45. Il était censé appeler Radic pour lui demander de passer le chercher, mais à la place il marcha jusqu'à la station et prit le métro jusqu'à Grand Street. Il trouva sans peine le lycée Waterbury, se présenta, montra sa plaque, demanda à voir le principal. Madame Bergen, la principale, encore une personne compétente, franche et accommodante, reçut Paris sans hésitation. C'était une jolie femme. Elle portait une alliance. J'enquête sur un meurtre, annonça Paris. Une élève du lycée Saint-François a été retrouvée étranglée. J'ai parlé à un de ses amis, et qui m'a dit que vous aussi aviez eu Karen Pulaski, interrompit Bergen. C'est d'elle que vous parlez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Noël dernier, quelques jours après, le 28 je crois, elle a été découverte étranglée. C'était une élève récente. Elle était ici depuis, je ne sais pas, 6 mois, peut-être 9. C'était un événement absolument terrible.
Et l'affaire n'a jamais été élucidée.
Pas que je sache, inspecteur. Ça fait maintenant des mois que je n'ai pas eu de nouvelles. Je suppose que si elle avait été élucidée, la police aurait eu la courtoisie de m'en informer.
Ça n'est jamais garanti, Madame Bergen.
répondit Paris.